Ce n'est pas exact. Ce que Amnesty International rapporte est préoccupant et nous sommes les premiers concernés par ce qui s'y passe. Seulement, il se trouve que vous connaissez la nature du pays et la nature des violences qui ont lieu en ce moment dans le pays. Et il se trouve que dans le cas d'espèce, nos forces n'étaient pas présentes au moment où ces horribles violences ont eu lieu à Lindao. Mais aussitôt après, la MINUSCA a été déployée. Je crois que cela, Amnesty International le reconnaît et dit très bien que la situation dans le pays aurait été pire si les forces de la MINUSCA n'étaient pas présentes. Et je peux vous dire de manière concrète que ce que nous avons fait à Bangassou pour y déployer nos forces, pour y envoyer des forces de manière héliportée, toute chose qui comporte énormément de risques et de dangers, n'a jamais été fait ailleurs. Et nous faisons tout ce que nous pouvons précisément pour essayer de contenir cette violence. Et vous savez, le fait caractéristique des violences auxquelles nous faisons face aujourd'hui à Bangassou et dans toute cette partie du pays, c'est que la MINUSCA doit non seulement tout faire pour aller au secours de populations civiles dans ces violences intercommunautaires, mais en plus, elle doit pratiquement se préparer à se battre puisqu'on nous attaque. C'est le fait nouveau, monsieur. Et quand je vous le dis, des ponts sont coupés. Ceux qui sont à l'œuvre et qui commettent tous ces crimes détruisent des ponts, rendent l'accès extrêmement compliqué, aussi bien pour la MINUSCA que pour les travailleurs humanitaires, à tel point qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les humanitaires ont quitté ces zones parce qu'elles présentent beaucoup trop de dangers pour elles.
Ouais.
Donc voilà, et d'ailleurs, j'apprécie le fait que Amnesty International ait elle-même reconnu que nos forces étaient éparpillées sur un territoire qui est immense et que, dans le cadre justement de la revue du mandat de la MINUSCA, elle pensait qu'il était nécessaire que nos capacités soient revues à la hausse.
Ouais. Justement, Amnesty International milite pour le renforcement du mandat des forces de la MINUSCA pour peut-être que ces soldats puissent peut-être ouvrir le feu pour empêcher ou bien dissuader ceux qui commettent des crimes.
Ah non, non, non. Ouvrir le feu ne pose pas problème. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour protéger les populations civiles. Notre mandat nous autorise à le faire. Ce que nous déplorons, c'est que vu la taille du pays, et vous êtes sans ignorer que récemment, le pays a vu le retrait prématuré de forces de la Task Force de l'Union africaine et des forces spéciales américaines, dont toute la partie sud-est du pays. Cela a fait un appel d'air qui a évidemment laissé la porte libre, la voie libre à tous ces groupes, à un grand nombre de groupes armés. Et sans pour autant qu'il y ait de capacité additionnelle pour la MINUSCA. Donc nous y faisons face et toutes les fois que la situation l'impose, nous n'hésitons pas justement, dans le souci de protéger les populations civiles, d'utiliser la force. Maintenant, et c'est là la complexité de nos tâches, nous ne pouvons pas nous engager dans un combat armé. Nous voulons apporter la paix, nous ne pouvons l'utiliser qu'en self-défense et pour protéger les populations civiles. Et ma foi, ça reste une tâche extrêmement complexe, surtout, et je le redis, dans un contexte où des groupes armés s'attaquent désormais à la MINUSCA, ce qui est absolument condamnable.
Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être augmenter votre effectif pour faire face à l'adversité et à l'offensive de ces groupes armés?
Certainement, mais vous savez, cher monsieur, que le contexte du maintien de la paix aujourd'hui n'est pas simple. L'augmentation des troupes a un coût que les pays contributeurs ne sont pas toujours disposés à payer, parce que on dit, et c'est cela le danger également, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une solution militaire au conflit. Donc l'augmentation des troupes indéfiniment n'est pas la solution. Il faut, et c'est ce que nous essayons de faire également, soutenir des initiatives politiques, essayer de comprendre quels sont les fondements de cette crise qui n'en finit pas, et emmener tous les acteurs autour de la table. C'est ce que le gouvernement centrafricain essaie de faire à travers son programme de DDR. Mais manifestement, ce qui est vraiment grave en ce moment, c'est cette dérive un peu violente où des communautés vraiment s'en prennent les unes aux autres, et même dans des zones où, pendant longtemps, ces communautés vivaient plutôt en bonne harmonie.
Mmh. Est-ce que vous continuez d'appuyer les autorités politiques hein, dans, par exemple, le DDR, hein, démobilisation, réinsertion, et voilà. Est-ce que vous continuez à les appuyer?
Absolument, absolument. Nous sommes à pied d'œuvre et travaillons étroitement avec le gouvernement. Il y a à peine une semaine, nous sommes retrouvés autour du chef de l'État et de son gouvernement pour le lancement de ce projet pilote qui vise justement à faciliter la réintégration, de, non seulement le désarmement, mais la réintégration de certains éléments de groupes armés dans les corps de police et de défense. C'est un processus qui est difficile, qui est complexe, mais il faut s'y atteler et c'est ce qu'on fait. Nous avons les partenaires engagés, la Banque mondiale a dédié des ressources importantes à cette cause. Maintenant, au-delà des ressources, il faut qu'il y ait de la volonté, que tous ces groupes armés qui ont convenu de signer cet accord de cessation des hostilités à Sénégidio le 19 juin dernier, s'accordent désormais à le respecter. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place par les autorités centrafricaines. Il y a, d'ici samedi prochain, l'Union africaine qui va déployer une mission importante pour la mise en œuvre de sa feuille de route, que nous allons appuyer. Donc, nous avons toutes ces initiatives qui se justifient parce que, encore une fois, il ne saurait y avoir une solution militaire à un problème politique.